Bien, je vous présente Yvan Leclerc et Daniel Girard, qui font partie tous les deux de l'équipe Flaubert. Vous en avez sans doute entendu parler, vous avez peut-être même vu déjà les pages et les manuscrits, et peut-être même certains d'entre vous sont des collaborateurs ou des postulants futurs du projet. Je crois que M. Leclerc est là aussi pour recruter. J'en profite pour faire deux petites annonces de la maison. Vous savez que demain, nous devrons achever cette semaine et remercier de toutes les façons Cerisy. Vous avez dans le bureau à côté, près de la fenêtre, un grand livre qui est le livre d'or, le livre des invités, dans lequel vous êtes prié de mettre une petite phrase et votre signature. Alors réfléchissez-y, quelque chose d'intelligent, de bien de vous,
ou de Flaubert,
que ça reste. Et puis juste à côté, il y a une petite boîte où, beaucoup plus simplement, vous pouvez mettre quelques deniers pour le personnel. Pensez-y, parce que la maison vaut le coup et le personnel aussi. Voilà, donc je cède la parole à nos Flaubertiens.
Merci et bonjour. Et merci aux deux organisateurs de nous avoir invités à présenter ce projet Bovary. La rencontre entre la littérature et l'Internet est sans doute aussi improbable et inévitable que celle sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Alors, si je me demandais effectivement ce qui pouvait se trouver avec une machine à coudre sur une table de dissection, mais aujourd'hui c'est un parapluie. C'est un parapluie. Nous n'allons pas parler de parapluie, mais de table de dissection, dans la mesure où ce que nous nous proposons de faire, c'est de coucher le corps d'Emma devant vous sur cette table de dissection, comme dans la célèbre caricature de Le Mot que vous connaissez, où on voit un Flaubert en chirurgien ou garçon boucher brandissant au bout du bistouri, mais ce bistouri ressemble aussi à un couteau de cuisine, le cœur de son héroïne. Donc, nous n'allons pas nous intéresser au corps d'Emma, mais à son corpus, pour une petite leçon d'anatomie, qui ne portera pas sur la genèse du roman, mais sur la transcription du manuscrit et sur le fonctionnement du réseau des transcripteurs. Au centre Flaubert, donc à l'université de Rouen, Daniel et moi, nous avons en effet la responsabilité de ce volet de l'édition hypertexte de Madame Bovary, et c'est une tâche dans laquelle nous sommes très efficacement secondés par Niki Wallis-Rion, qui est avec nous, qui vient d'arriver, et elle est doctorante et sa thèse porte sur la genèse des lectures d'Emma. Elle est donc en prise directe avec le travail sur le manuscrit. Pour nous trois, pour l'équipe de transcription, ce colloque arrive à son heure et à la bonne heure, dans la mesure où nous sommes engagés depuis déjà un certain nombre d'années. Je vous donnerai tout à l'heure des éléments de repère chronologiques dans ce projet. Donc nous avons une certaine vitesse acquise, un certain nombre de résultats à vous montrer et déjà en ligne, mais encore beaucoup de travail devant nous, des questions que nous nous posons et des avis à recueillir et éventuellement de futurs transcripteurs à recruter, comme Patrick le disait à l'instant. Il me semble aussi que ce colloque arrive à son heure pour tous ceux qui travaillent sur l'interférence entre littérature et Internet, dans la mesure où notre légitimité ou notre reconnaissance n'est pas encore assurée, comme vous le savez. Peut-être que nous ne partageons pas la vision d'un futur absolument brumeux, c'est sans doute le temps d'aujourd'hui qui nous dispose à cette humeur, mais l'avenir n'est pas non plus absolument radieux. Juste une petite parenthèse pour vous rapporter deux propos récents sur la manière dont littérature et Internet peut être considérées. Le premier propos se trouve dans la bibliographie du 19e siècle de l'année 2002, qui est publiée aux presses de la Sorbonne en 2004, et dans la présentation de cette bibliographie, Philippe Régnier constate la disparition dans ce volume-là, par rapport au volume antérieur, de la webbiographie, due, dit-il, à l'indisponibilité de sa responsable. Soit, et il enchaîne, je cite, « Nous étudions avec elle la question de savoir si pour l'avenir le mieux est de continuer cette section, ou de la dématérialiser en la publiant sur un site, ou d'y renoncer en considération de la volatilité du numérique en ligne, malgré les initiatives institutionnelles, qui commencent à être prises pour en conserver des archives de même nature. » Autrement dit, les publications en ligne ne doivent faire l'objet que d'une bibliographie en ligne de même nature. Et on ne mélange pas le papier et l'écran. Ouais, c'est une bizarre séparation. Au moment où la vraie question qui se pose n'est pas de savoir s'il faut conserver une webbiographie, hein, ou une bibliographie, mais s'il est encore pertinent de publier sur papier une bibliographie paraissant, vous l'avez noté, 2 ans après l'année, et avec un index qui, bien qu'il soit fort bien conçu, ne peut pas rendre les mêmes services qu'une base de données interrogeable en ligne. Deuxième propos, rapporté, celui d'un président d'une commission nationale d'aide à la publication, qui commente le refus d'une subvention pour les actes d'un colloque jugé de médiocre qualité en disant « on peut toujours les mettre en ligne ». Bref, la cause n'est pas gagnée et les hiérarchies mettront beaucoup de temps, sinon à s'inverser, c'est pas le but, mais au moins à se défaire entre la noblesse du papier et ce qui est considéré par d'aucuns comme le tout venant de l'écran. J'en viens donc à notre propos central, qui est ce projet Bovary, que nous appelons parfois entre nous Hyper Bovary, son nom officiel, c'est édition génétique des manuscrits Madame Bovary, avec donc la numérisation intégrale des fouillots du manuscrit et la transcription. Et je voudrais d'abord indiquer les conditions qui ont rendu possible cette entreprise. Il a fallu que plusieurs conditions soient en effet remplies pour que nous soyons, que le projet démarre et que nous soyons aujourd'hui avec vous. D'abord, une condition matérielle qui tient à Flaubert lui-même. C'est grâce à Flaubert, évidemment, qu'on est ici, pour une raison simple et qui n'est pas évidente pour tous les écrivains, c'est qu'il a conservé tout ce qu'il écrivait, et même s'il a publié très peu par rapport à Balzac, il a publié 6 œuvres. Alors, la concordance de Flaubert, j'imagine, est beaucoup plus rapide à faire que celle de Balzac. Mais il a beaucoup écrit, c'est-à-dire que la masse du manuscrit est probablement pour les auteurs de la littérature française et mondiale la plus considérable par rapport au pourcentage de la masse effectivement imprimée. Il a conservé toutes ses traces écrites, et c'est évidemment grâce à lui que nous pouvons transcrire du manuscrit. Pourquoi les a-t-il conservés? C'est pas le problème, on peut parler de fétichisme, mais on n'a rien réglé de cette manière-là. Probablement qu'il voulait garder des preuves intellectuelles, des sortes de garants éthiques et esthétiques d'une sorte d'artisanat du style. Bon, je passe très rapidement sur ce point. Toujours est-il qu'il n'a rien jeté de ce qui sortait de sa plume. Par chance, sa nièce, qui a été son héritière, a transmis les manuscrits importants, et en particulier, elle a fait don du manuscrit Madame Bovary à la bibliothèque municipale de Rouen, où se trouve un ensemble à peu près complet. Je dis à peu près, on a repéré qu'il manque sur les 4500 folios, je donne un chiffre rond, tout à l'heure on affinera, qu'il manque 11 folios, dont 9 se retrouvent dans des catalogues de vente, c'est-à-dire qu'ils ont été donnés par Caroline elle-même à des amis prestigieux, en particulier Edmond de Goncourt, et ils se retrouvent maintenant truffés, comme disent les marchands de livres, dans certains exemplaires. Mais j'ai fait un petit pourcentage, on a conservé 99,8% du manuscrit intégral de Flaubert, on peut donc commencer à travailler. Première condition matérielle. Deuxième condition, sont des conditions humaines et institutionnelles. Il me semble, chaque fois que je pense à ce projet Bovary, je me dis qu'il y a une conjonction astrale favorable qui a permis que les choses se mettent en place. D'abord, c'est la rencontre, notre rencontre, Daniel Girard et moi, qui a eu lieu à un colloque, mais le colloque ça sert à quelque chose quand même, ça sert à des rencontres et à l'élaboration de projets futurs, un colloque qui avait été organisé à Rouen en juin 2002 sur l'édition électronique en littérature et dictionnaire. Ensuite, l'année suivante, en 2003, Niti Wadisriong, dont je parlais tout à l'heure, obtient de la région de Normandie une bourse doctorale pour rester en France et avec nous pendant 3 ans et continuer, enfin entreprendre en tout cas, son travail de rédaction de thèse. Et puis avant, si on remonte un petit peu dans le temps, nous avons conçu le projet en partenariat avec la bibliothèque municipale de Rouen, que j'abrégerai en BMR, où se trouve donc le manuscrit de Madame Bovary. Alors les choses ont été une chronologie un peu large. On a commencé à penser à la possibilité de ce projet en 2000. On avait déposé auprès du ministère de la Recherche un projet dans le cadre du programme qui s'appelait Conitique. Notre projet a été refusé pour des raisons que je n'ai pas bien comprises, peu importe, mais la même année, il a été accepté par le ministère de la Culture, il suffisait de changer de ministère, on s'était trompé d'adresse, dans le cadre du projet de plan de numérisation des fonds patrimoniaux des collectivités locales, hein, par le ministère de la Culture. Et nous avons officialisé notre mariage avec la bibliothèque, avec la BNR, par une convention entre la ville de Rouen et l'université. Pour l'université, il y a deux partenaires institutionnels qui sont donc le Centre Flaubert que nous représentons, et puis le laboratoire d'informatique PSI, Perception Système Identité, qui, alors le PSI très rapidement, fait partie donc institutionnellement du projet, et ils ont conçu un site projet que vous pouvez consulter en ligne sur notre site, ça a été notre première base de réflexion. Et puis, ils nous avaient promis un logiciel d'aide à la transcription qu'ils avaient très aimablement baptisé Emma. Alors, je développe. Éditeur de manuscrits modernes assistés. Emma, Flaubert n'y avait pas pensé. Mais Emma, évidemment, se fait attendre. Hein, et du coup, nous n'avons pas encore à notre disposition cet outil de transcription. Et dans ces partenaires, enfin, institutionnels, il faut signaler le rôle très important de la région Haute-Normandie. À chaque fois que l'on prononce le nom de Flaubert devant des conseillers régionaux, ils ouvrent toute grande la bourse et les finances. Alors je ne sais pas, je suppose qu'en Basse-Normandie, ça doit être la même chose avec Barbet, il doit y avoir d'autres César, comme ça, hein, qui doivent, mais nous avons eu beaucoup de chance. La région Haute-Normandie a donné 3 bourses doctorales, donc de 3 ans, pour ce projet. Elle a payé des vacations d'étudiants, elle a payé des frais de mission, et si nous sommes aujourd'hui parmi vous, c'est aux frais de la région Haute-Normandie que nous saluons et que nous remercions. Dieu soit loué et le conseil régional avec lui. Donc, nous sommes pour l'instant à l'étape suivante. La bibliothèque, la BMR, a numérisé l'intégralité du dossier manuscrit. Et Pierre-Yves Cachard, qui est en charge de ce dossier conservateur chargé de nouvelles technologies à la BMR, a conçu la navigation du site qui devrait ouvrir en 2006. Ce sera un anniversaire flaubertien, bovarien ou bovarique, puisque 2006, l'année a été retenue par les célébrations nationales pour commémorer le 150e, parce que maintenant 100 ans c'est trop long, hein, le bicentenaire de la naissance de Flaubert, il faudra attendre 2021, c'est un peu loin. Donc le 150e de la publication de Madame Bovary, au moins entrée originale dans la Revue de Paris, donc 1856. Et dans le futur site, on aura accès à la fois à la totalité des manuscrits, des folios numérisés, des manuscrits de Flaubert, et en même temps, couplés à ces folios, les transcriptions qui auront été effectuées à ce moment-là, donc fin 2006. Mais les transcriptions sont déjà en ligne sur le site Flaubert. Ensuite, il y aura une double interrogation possible à partir du site de la BMR et du site Flaubert. Troisième type de raison, donc de conditions remplies, après les conditions matérielles et humaines institutionnelles, des conditions intellectuelles. C'est-à-dire que cet ensemble, ce massif de 4549 folios très exactement, il a fallu qu'on apprenne à le connaître. Et il y a évidemment toute une histoire papier de la connaissance de ce texte qui a précédé et qui a rendu possible sa connaissance numérique. Alors, je voudrais simplement... Alors, deux choses, si vous voulez, dans cette approche intellectuelle. D'abord, des transcriptions partielles qui ont été faites et qui, évidemment, nous servent beaucoup. Et puis, les cadres de classement du manuscrit. Alors, pour les transcriptions, je voudrais rendre hommage à une dame dont je me dis qu'il faudra un jour qu'on écrive la biographie, parce qu'elle a dû avoir une existence extrêmement monacale comme la nôtre. C'est Gabrielle Leleu, qui a été bibliothécaire à la BMR dans les années 30 ou 40 et qui a commencé à faire un travail d'extraction de fragments non retenus par Flaubert. Alors évidemment, c'était la préhistoire de la génétique, mais elle a publié, vous connaissez sans doute, avec Jean Paumier, d'où le nom d'édition Paumier-Leleu, ce qu'elle appelait une nouvelle version de Madame Bovary chez Corti en 59, où elle a pris le texte de Flaubert et puis elle a rajouté au texte de Flaubert ce qu'il avait supprimé dans les derniers moments de la rédaction. Donc on a une sorte de grosse Bovary, si l'on peut dire, une sorte de Bovary augmentée ou un peu enflée, par un ajout, mais en continuité, c'est-à-dire qu'on a une lecture en quelque sorte linéaire de cette Bovary, rien n'étant inventé par les éditeurs critiques, évidemment, mais le texte que nous lisons est un pur artefact qui résulte d'un choix ou d'un découpage arbitraire. Et puis ensuite, nous avons eu La transcription de Jeanne Goldin pour ce qui concerne le chapitre des comices agricoles, hein, dans les années en 84 exactement, et plus récemment le chapitre sur l'opéra, enfin, les brouillons se rapportant au chapitre de l'opéra ont été également transcrits. Dernière condition intellectuelle de connaissance de ce manuscrit, il a fallu classer les 4549 folios. Ce qui ne s'est pas fait en un jour, et là nous avons, il y a une sorte d'empilement comme ça, hein, il y a aussi une genèse de la recherche et de la connaissance intellectuelle bien évidemment. La première à avoir commencé, c'est la grande flaubertienne Claudine Gotomersch, qui nous a donné ces documents manuscrits qui étaient des documents préparatoires à la rédaction de sa thèse, La Genèse de Madame Bovary. Ensuite, Isaki Sawazaki, que vous connaissez peut-être, monsieur qui a travaillé à l'université de Tokyo, a fait en 93, donc il y a plus de 10 ans, un classement que l'on appelle tabulaire ou statique. C'est-à-dire qu'elle a empilé à la verticale sur les pages imprimées les différents folios de Flaubert qui ont servi à écrire cette page-là. Mais elle ne les avait pas classés par ordre génétique intégral. Et ce classement a été effectué en 2000 par Marie Durel. Et depuis le classement donc, complet du manuscrit par Marie Durel, on sait très exactement dans quel ordre les feuillets sont passés entre les mains de Flaubert. Et ça, Madame Bovary est avec trois contes, il y a un autre bénédictin qui a travaillé sur trois contes, qui s'appelle Giovanni Bonacorso, hein. À part Bovary et trois contes, on ne sait pas classer, enfin, personne n'a jamais classé intégralement les autres manuscrits de Flaubert. C'est-à-dire que le travail qu'on fait pour Madame Bovary, on ne pourrait pas le faire dans l'état actuel de notre connaissance des dossiers, pour Salambeau, pour l'éducation sentimentale, pour Bovary Pécuchet, pour la tentation de Saint-Antoine. Donc vous voyez, nous sommes à l'extrême pointe, en quelque sorte, de toute une histoire de la recherche. Enfin, dernière condition qui a rendu ce travail possible, l'existence d'un médium, plutôt aujourd'hui d'un média, qui est le site Flaubert, qu'on a ouvert en 2001, qui est un site entièrement fait à la main, et quand on regarde de près, ça se voit. Lié à ce site, il y a un bulletin électronique, qui est une liste de diffusion, pour prendre la distinction que Patrick fait dans les salons littéraires dans l'Internet, c'est qu'il distingue les listes de diffusion et de discussion, donc c'est bien pour nous une liste de diffusion unidirectionnelle, dit-il. On voit la page 57 de son livre. Et c'est grâce à cette liste, qui est toujours, comme vous le savez, fidèlement relayée par Victor, à tel point que Ribéras se plein de recevoir deux messages, un de l'Isabelle et l'autre de... Alors il va falloir peut-être désabonner pour éviter les doublons dans les envois. C'est au moins une fois de trop, hein, vous savez. Et donc c'est par ce bulletin qu'on a pu lancer un appel à transcripteurs. C'était le bulletin 54 du 24 mars 2004, donc ça fait donc un an et demi. Et depuis, Daniel n'arrête pas de travailler jour et demi pour répondre aux transcripteurs.
Plutôt le jour.
Et elle va nous expliquer son travail tout de suite. Donc toutes ces conditions ont rendu possible la naissance d'un projet Bovary sur Internet. Mais encore, fallait-il que cette nécessité s'impose. Il ne suffisait pas de réunir des conditions de possibilité. Il fallait qu'Internet ne résulte pas d'un choix d'une certaine manière, mais qu'il résulte d'une obligation. Au sens où ce que fait Internet, le papier ne peut plus le faire. Et là nous sommes évidemment dans un cas où Internet est absolument indispensable pour ce que nous faisons. Alors en quoi est-ce que l'Internet a imposé sa nécessité? D'abord à cause du volume du corpus. 4549 folios, je le rappelle. Tant qu'il s'agit de publier les plans et scénarios de Madame Bovary, Flaubert avait une phase d'abord de programmation en quelque sorte de son travail qui tiennent en 61 pages multiplié par deux, si on veut mettre face à face le facsimilé du manuscrit et la transcription, on peut encore avoir recours au papier, ce que nous avons fait. Il existe une version imprimée sur papier des plans et scénarios de Madame Bovary. Mais 4549 folios de manuscrit, multiplié par deux, j'ai fait un petit calcul, on dépasse évidemment les 10 000 pages, ça occuperait presque la moitié du grand dictionnaire universel du 19e de Pierre Larousse, qui compte lui 24 000 pages. Je crois que c'est le vieux Marx ou le jeune Marx, enfin pour nous c'est le vieux Marx, qui disait quelque chose comme à partir du moment où on a une sorte de d'accumulation quantitative, pardon, il faut que s'opère un saut qualitatif.
Non, c'est Hegel.
Ah, c'est Hegel qui dit ça. Hegel. Donc nous sommes effectivement dans cette dialectique de la pression quantitative fait que il faut changer de paradigme, de support, etc. En tout cas de mode de transmission. Alors ce n'est pas seulement la quantité, fut-elle énorme, qui nous impose Internet, mais aussi la nature du dossier que nous allons présenter, qui est un dossier de Genèse, évidemment non linéaire, qui est constitué par 5 types de documents de Genèse différents, les plans et scénarios dont je vous parlais tout à l'heure, les normes massives des brouillons, deuxième couche, troisième couche, Flaubert recopie au propre, enfin ce qu'il appelle au propre, on va voir tout à l'heure qu'il y a encore du nettoyage à faire, donc son manuscrit définitif. Évidemment, il ne le confie pas à l'imprimeur, il le confie d'abord à un copiste, donc il y a le manuscrit du copiste, et puis ensuite, le texte imprimé, et il faudrait dire les textes imprimés, parce qu'il y a plusieurs originales parues du vivant de Flaubert. Pour l'instant, on s'arrêtera une originale type, enfin, une version imprimée, mais il y aurait là aussi un feuilletage avec les variantes dont on parlait tout à l'heure, entre les différentes versions imprimées. Et il est évident que quand on a affaire à un dossier qu'il faut pouvoir, avec des couches différentes, qu'il faut pouvoir parcourir à la fois horizontalement et verticalement, le papier ne suffit plus. Et alors, je vais citer le deuxième organisateur, parce qu'il va pas être content, c'était tout à l'heure Patrick, donc Michel Bernard, introduction aux études littéraires citées par ordinateur. Il définit très exactement ce qu'est l'hypertexte, page 150. Quel est l'ordre de lecture d'un hypertexte? La lecture séquentielle induite par la succession des pages du livre n'est plus ici de mise, et l'hypertexte peut être parcouru en tous sens, on peut y accéder de n'importe quel point et il n'a pas de fin. On pourrait aussi dire qu'un hypertexte propose plusieurs séquences de lecture que l'on parcourt indifféremment. On ne dira pas mieux ni autrement, tout est là. Hein, il faudra que nos 4549 pages puissent être affichées de différentes manières, dans l'ordre matériel du foliotage de la bibliothèque actuellement, mais aussi et surtout dans l'ordre des séquences chronologiques que Flaubert a pu respecter. Troisième nécessité d'Internet, la gratuité de l'accès. Et là, on rejoint tout à fait le travail admirable qui nous a été présenté au préalable. La BMR et le Centre Flaubert, en tant qu'institution publique financée par des fonds publics, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire la ville de Rouen, la région et l'État, conçoivent leur travail comme un grand chantier d'intérêt général, accessible à tous. Donc la BMR a le souci de la lecture publique, de la conservation et de la diffusion auprès du plus large public d'un des joyaux évidemment de ces fonds patrimoniaux. Quant au Centre Flaubert, pour nous, nous sommes attentifs évidemment aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants, aux lycéens, qui devront trouver un matériau aussi fiable que possible, mis gratuitement à leur disposition pour leurs exercices, les exposés, les séquences en lycée sur les critères de travail, les thèses ou les articles. Lors de notre première phase de réflexion, c'était en 2000, on avait hésité pendant un temps, mais il a été très court, entre CD-ROM et site. Et le modèle à l'époque, c'était les caves du Vatican d'André Gide, le CD-ROM, fait par du Alain Goulet, qui est apparu chez Gallimard en 2000. Mais on l'a très rapidement écarté, pour une raison de coût, on s'est dit, on ne peut pas vendre le produit de notre travail. C'était le moment en plus où les CD-ROM commençaient légèrement à décliner dans ce genre de production et où les sites commençaient à monter. Et puis, notre choix, enfin, l'exclusion du CD-ROM, ça a été dû aussi à la dernière nécessité, c'est que nous avons affaire à un projet évolutif. Et qu'on ne pouvait pas fixer, même en disant on va ensuite avoir un complément de CD-ROM, une correction, etc. On ne pouvait pas le fixer dans la cire ou dans le marbre ou dans le, je ne sais quel produit entre dans la composition des CD-ROM. Alors, il est évolutif, bien sûr, parce que c'est un projet collaboratif, que les transcriptions arrivent depuis mars 2004 et que les transcripteurs voient très rapidement leur travail mis en ligne, alors qu'il aurait fallu leur demander d'attendre plusieurs années. Et aussi parce que c'est un travail qui n'aura pas de fin. Ça, Ça, je te l'avais pas dit, mais j'ai réservé aujourd'hui.
Moi non plus, j'avais pas voulu te le dire.
Bah non, mais... on s'est engagé dans un projet sans fin parce que, évidemment, les transcriptions qui sont faites par des gens qui le font avec amour et avec soin présentent un certain nombre d'incorrections. On a des coquilles dans les textes imprimés de Balzac et ce qu'on met en ligne est sous réserve de validation. Les transcriptions sont indéfiniment améliorables, corrigibles, elles se modifieront au rythme des relectures, elles s'enrichira des travaux en ligne suscités par les transcriptions. Bref, on est dans quelque chose de sans fin, comme je disais tout à l'heure dans la dans l'hypertest. Donc, ce qui a rendu Internet pour nous possible et nécessaire a imposé aussi un certain nombre de contraintes qui, en se combinant avec des choix dont on peut discuter, donne sa physionomie propre à ce projet. Ce sera mon dernier point. D'abord, la première contrainte qui s'est imposée à nous, c'est de transcrire. Parce que l'écriture de Flaubert que vous avez sous les yeux n'est pas immédiatement lisible. Si on avait affaire à Zola, à Maupassant, à Sartre, on n'a pas besoin de transcrire. Quand vous regardez le rêve, l'édition hypertexte du rêve sur Gallica, bah, vous dites qu'ils se sont fait plaisir en transcrivant, mais que ce n'était pas la peine, que le manuscrit de Zola est parfaitement lisible. Zola, lui, a ménagé les généticiens, c'est qu'il a détruit tous ses brouillons. Comme vous savez, hein, il a gardé l'état final, donc quasiment sans rature, ce qu'il donnait à l'imprimeur, et puis il a gardé toute la partie scientifique expérimentale, c'est-à-dire les noces, qu'il appelait les ébauches, etc. Mais entre les deux, on n'a rien. Oui, donc toute la documentation, ça c'est expérimental. Mais l'artisanat du style, ça, il a évidemment détruit. En revanche, quand vous entrez, quand vous avez affaire à des auteurs, je dirais à des scripteurs, hein, à des scripteurs, là, au sens, pas au sens qu'on l'utilisait il y a 20 ans pour éditer le mot auteur, mais au sens propre de scripteurs, tels que Proust, Balzac, difficilement lisible, bien sûr, Stendhal, qui est un cauchemar, bien sûr, et Flaubert, qui n'est pas immédiatement lisible, on était obligé de transcrire. On est aussi obligé de transcrire, évidemment, pour permettre des recherches sur les textes transcrits. Bon, on n'a pas encore les outils de recherche sur l'écriture manuscrite, ça viendra peut-être un peu plus tard. Donc, l'autre choix, c'était le mode de transcription. Vous savez qu'il existe plusieurs manières de transcrire des manuscrits. Je n'étends pas là-dessus. En gros, il y en a deux. Il y a une transcription linéarisée, c'est-à-dire que vous remplissez vos lignes, puis vous mettez des codes pour signaler que c'est un ajout, une suppression, etc. Puis la transcription qu'on appelle diplomatique, que Daniel pour nous préfère appeler analogique, mais qui en gros respecte la disposition topographique de la page. Nous avons opté tout de suite, pas tout de suite, je pense qu'il y a quelques débats, mais ça a été assez rapidement tranché, pour la disposition diplomatique. Pour quelle raison? Parce que notre transcription sera toujours couplée à la page de Flaubert. Donc notre but, c'est non pas de substituer une transcription au manuscrit, mais d'aider à la lecture du manuscrit. De telle sorte que le lecteur, enfin, peut-on encore appeler un lecteur, disons, ou le feuilleteur, celui qui va consulter, hein, puisse aller de l'un à l'autre. Et vous connaissez la blague qui circule parmi les généticiens, parce que en général les transcriptions sont tellement codées qu'on a du mal à les déchiffrer, c'est qu'ils disent très souvent que c'est le manuscrit qui aide à lire la transcription et pas l'inverse. Donc on se dit que à la fois, et puis en plus pour nous, dans la mesure où nos transcriptions ne sont pas intégralement fiables, et elles ne le sont quasiment jamais, le lecteur a toujours la possibilité de vérifier sur la page de Flaubert si on ne s'est pas trompé. Et là, on attend évidemment, lorsque tout le site sera en ligne, des effets en retour et des corrections en retour qui seront apportées à nos transcriptions intégrées au fur et à mesure. Et enfin, dernière contrainte, et qui je vais ensuite donner la parole à Danielle, parce que c'est évidemment elle qui va parler de ce domaine, c'est que la quantité énorme à transcrire imposait de ne pas recourir au seul cercle des flaubertiens spécialistes, au seul cercle des flaubertiens généticiens. Les flaubertiens patentés, il y en a quoi, 30 dans le monde. Les spécialistes de génétique, il y en a 10. À supposer qu'ils les souhaitaient, on ne pouvait pas leur demander de transcrire chacun 450 folios du manuscrit de Flaubert. Donc il fallait passer à une autre dimension, qui était justement la dimension collective de l'appel à bénévoles et la création d'une sorte de communauté virtuelle de transcripteurs. Même quand on est flaubertien et flaubertien généticien, ce n'est pas une garantie contre les erreurs de transcription. On sera charitable, on ne citera pas le nom, mais il suffit de prendre des pages transcrites par des flaubertiens pour trouver des erreurs tout le temps. C'est-à-dire que le meilleur gage n'est pas d'être flaubertien ou généticien, mais de travailler en commun et de lire à plusieurs les pages d'un manuscrit. Et ce recours à des non-spécialistes nous imposait aussi de leur demander des documents qui n'étaient pas trop sophistiqués, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de leur demander de coder ou de baliser, on leur demandait de nous fournir un document Word qui ensuite serait converti et installé, converti en HTML et installé sur notre site. Alors ce qui risque peut-être de poser des problèmes à l'avenir quant à l'installation d'un moteur de recherche, mais Daniel va en parler. Donc je conclue très partiellement et provisoirement en disant que si l'entreprise a été possible, c'est aussi parce que c'est Madame Bovary. C'est-à-dire non seulement parce que Flaubert a gardé, parce que ça a été bien transmis, parce que les bibliothèques municipales, etc., mais aussi parce que tout le monde connaît Madame Bovary. Ça fait partie du patrimoine universel, et du coup, on aurait peut-être eu moins de chance, avec un appel à transcripteurs bénévoles, si c'était agi d'un roman un peu moins universellement lu et répandu. Et l'autre chance que l'on a, c'est que nous avons à la fois un roman universel et un fort ancrage local, comme vous l'avez compris, pour la réalisation du projet, puisque c'est une entreprise roanno-roanaise ou roanno-normande. Et en plus, quand il y est, puisque Daniel a la chance d'habiter sur les lieux mêmes où Flaubert a vécu, à Canteleu, qui est, comme vous savez, la commune de rattachement de Croissé, où Flaubert avait sa maison. Voilà, la cantine.
Bon, alors moi, je passe, vous avez eu toutes les conditions externes, je vais donc vous raconter l'histoire de l'intérieur, et pour que on va voir en quoi consiste la tâche des transcripteurs. Et puis comme c'était quelque chose sur internet, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose sur internet, donc je vais essayer de, quelques exemples pour montrer comment internet peut aider la transcription pour trouver des choses, pour vérifier certaines choses. Il faut se dire que les transcripteurs sont dans le monde entier. Il y en a qui habitent sur des plages en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucune chance qu'ils aient de la DSL dans les prochains jours. Donc il faut vraiment se dire, on se met dans la position où ils n'ont pas forcément de dictionnaire chez eux, vous voyez tout ce background culturel, et il faut qu'on fournisse quelque chose d'à peu près correct. Alors en ce moment d'ailleurs, vous avez peut-être le fascicule qui circule là de la première, Donc, je vais vous montrer d'abord à quoi ils sont confrontés. Là, vous avez eu le temps de voir pendant assez longtemps, c'est un définitif, mais je reprends à la base pour que vous voyez aussi un peu comment ça se passe. Les brouillons sont pris un peu n'importe comment, c'est juste pour voir physiquement comment ils se présentent. Voici par exemple un brouillon, on voit bien, c'est la première page, du haut de la page, on comprend assez bien, vous voyez comment il fait, il écrit, c'est une page qui a déjà été remaniée, on arrive à la quatrième mouture de quelque chose, et sur son brouillon, Flaubert écrit, disons, là, tous les centimètres, vous avez des lignes de quelque chose qui a déjà été fait avant, et qu'il remet, qu'il réécrit sur une nouvelle page. Quand même, il y a des choses qui ne vont pas très très bien, donc il va vite gribouiller quelque chose, et non, fit-elle brusquement, Fit Emma brusquement, moche, fit-elle brusquement. Donc vous voyez, on a d'abord, et ça c'est assez constant, et ça nous aide beaucoup dans les transcriptions, que souvent ils corrigent en faisant, j'ai la flèche, okay. Voilà. Et ils corrigent pour dire parfois la même chose. Donc on comprend bien ce qu'il est en train de faire, et vous voyez que quand il aura fini, qu'il aura revu les choses, il va barrer, comment vous avez aperçu. Quand il est content, il réécrit sur un folio à côté, et pour signaler que ça c'est déjà fait, une grande croix, qui ne veut pas dire je jette tout à la poubelle, qui veut dire bon, ça c'est classé, on n'y revient plus. Il regarde la fin de la page, et la fin de la page lui paraît quand même, là il y a encore des choses. On retrouve bien ce qu'on a dit, parce que ça se verra dans les transcriptions. Une ligne à peu près tous les centimètres, et puis il a des choses à dire. Alors il commence à dire dans la marge, une fois, deux fois, trois fois, puis là ça suffisait pas, on va peut-être en rajouter un petit peu en dessous. On n'a plus de place, on va le mettre peut-être ici dans la marge. Ah, ici, là dans le coin, on a encore un petit peu de chance. Et on voit, voilà. Quand il est arrivé là, il ne peut plus avancer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme on l'a dit tout à l'heure, il prend une autre page, il réécrit là où il en est, il barre. Celui-là, en plus, il l'a barré sauvagement, parce que, et on a l'impression, quand c'est barré comme ça, nous, on appelle ça des trucs biffés, et il y a des chances pour que ça disparaisse à peu près complètement. Donc, vous voyez, c'était plutôt pour vous montrer comment ça fonctionne que pour vous dire, oh, regardez comme c'est ça, il y en a qui sont beaucoup plus propres, il y en a qui sont bien pires. Quand il a fait ça, comme nous l'a dit Yvan, il va se précipiter. Donc, pour le réécrire à la fin, il va avoir tout un manuscrit où il va tout recopier et qu'il va transmettre au copiste. Il n'aurait pas pu tout lire du premier coup, c'est pour ça que nous sommes tous appelés. Et donc, un manuscrit définitif, ça doit se présenter normalement comme ceci. D'accord, évidemment, il a fait en souvenir de sa jambe, pour le père Roux, en souvenir de sa jambe, non, en souvenir de la guérison de sa jambe, enfin voilà. Donc, on a des toutes petites. Voilà un définitif. Bien sûr, c'est quand même Flaubert, il a un sens du définitif qui n'est pas toujours le nôtre. Et voici du définitif flaubertien. Et là, vous allez voir, parce que là, il est féroce. Quand il corrige là, c'est qu'en général, il ne veut plus qu'on lise. Donc, pour les transcripteurs, le définitif, quand il est barré, c'est un des plus durs. Sauf que, bien sûr, on a des méthodes, puisqu'on sait ce qu'il avait dit avant, on le verra tout à l'heure. Et donc, on sait à quoi on s'attend. Là, on voit bien quand même de par-dessous. Il faut vous dire qu'on a d'excellentes images. Là, vous ne voyez pas ce qu'on a exactement. Les transcripteurs reçoivent un disque, un CD-ROM avec des images 300 dpi. Et quand on les ouvre, soit sur Photoshop, soit sur PaintShop, après, les mots, vous voyez, on les agrandit, on voit les transparences. Bon, voilà. Vous croyez que c'était bien. Voilà. Et voici la fin de la page, n'est pas mal non plus. Je vous la livre. Heureusement, c'est plus spectaculaire que ça en a l'air, parce que comme d'habitude. Je ne dis pas Harakiri parce que c'est pas l'endroit. Il barre et puis il dit ah non, c'était pas si mal, et il ne fait que recopier dans la marche qu'il avait barré là. D'autre part, la mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier. C'est Madame Dubuc, première Madame Bovary. Mais remarquez un petit peu ce qui se passe en bas. Quand on a ça à transcrire, parfois on peut le transcrire grâce à ce qu'il y a avant, pas à ce qu'il y a après, puisque ça va disparaître, mais des fois pas, et dans ce cas-là, on ne force pas notre talent et on met illisible, et heureusement. Alors après, comme nous l'a dit Yvan, on arrive au copiste, qui est un long fleuve tranquille. Copiste. Regardez comment on s'ennuie. Copiste. Sauf que, quand même, il va voir sur le copiste. Quoi, copiste ? Il y a quand même ça, ça ne va pas, on va barrer tout ça, etc., etc. Copiste, donc voilà, copiste. Non, je ne suis pas la tête de l'imprimeur, on nous a pas photographié la tête de l'imprimeur.
Ça, juste une petite précision, si tu permets. Oui. Ça, c'est pas Flaubert qui a barré, mais c'est les éditeurs de la Revue de Paris. Je vous parlais tout à l'heure de la pré-originale dans la Revue de Paris. Et vous savez, Flaubert a eu un procès célèbre, mais les éditeurs qui étaient Maxime Ducamp de la Revue de Paris, les directeurs, ont anticipé, ils ont vu que ça passerait pas à la censure, et donc ils avaient commencé à censurer eux-mêmes. Le travail de Flaubert. Attends. Donc ça, c'est Maxime Ducamp qui règle là.
Oui. Pas toujours.
Pas toujours,
hein, parce que des fois, il n'y a aucune censure. Pour dire qu'il allait en voiture au Berthaud, il n'y a même pas. Mais on a des surprises. Cette surprise magnifique, vous avez été longtemps confronté au définitif, vous savez, du premier de l'Incipit. Sur le copiste, on commençait par une heure et demie venait de sonner à l'horloge du collège quand le proviseur entra dans la classe, suivi d'un nouveau crac-crac. Nous étions à l'étude, quand le proviseur entra, il était temps, sinon, on n'avait pas d'incipit, donc on n'avait pas de roman. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Voilà. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est souvent sur le copiste qu'il fait ses chapitres. Tout d'un coup, on a une page de copiste, et puis on a chapitre 5. Bon, j'arrête, ça c'est pas le sujet. Alors maintenant, vous voyez, voilà, ils ont ça, mais quand même en très bonne définition. S'ils ont un bon écran, s'ils ont des petits yeux bien fatigués par des années d'études, de correction de copie, ils sont déjà très bien. Voici maintenant une aide méthodologique qui est justement ce qu'on en voit avec le CD-ROM, une reconstitution tout à fait bidonnée du tableau de Marie Durel, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc Marie Durel, c'est cette personne dont a parlé Yvan, et qui a classé vraiment dans l'ordre tous les brouillons qui allaient vers. Alors, voilà son unité de mesure, c'est cette colonne orange qui est le définitif. Le tableau se lit de gauche à droite. Voilà les brouillons les plus anciens, toc, toc, on avance. On arrive au définitif que vous avez vu. C'est donné ensuite au copiste que vous avez vu. C'est donné ensuite à l'imprimeur, et c'est le texte final que nous fournissons aussi au transcripteur pour qu'il sache vers où on va, comme ça on sait que tous les mots sont là. Donc, ce qu'on appelle une séquence, c'est comme ça qu'on a découpé les choses. Comme il y a beaucoup de travail, hein, vous avez vu, certains sont très lisibles, d'autres difficiles. C'est qu'on a donné tous les brouillons qui arrivaient à un définitif. Alors, ça dépend. Ça ne marche pas toujours. Vous voyez, ça fait à peu près une vingtaine de folios. Mais des fois, pour la rencontre dans la hutte, pour un définitif, 52 brouillons. Pas donner, c'est pas humainement possible de donner 52 brouillons à quelqu'un tout seul. Et si c'est humainement possible, car le Japon, on est au Japon, on a donc Isaki Sawasaki qui travaille à Yokohama et qui a pris toute la séquence voilà, des 52 brouillons. Donc, juste une question de méthode. Regardez, imaginez que vous ayez ce brouillon-là et qu'ici, là où j'en suis, là, ma flèche, en plein milieu, quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On se mentalement une ligne horizontale, on regarde dans le brouillon juste avant, à la même place, on se dit tiens, c'est dans le 164 que je vais peut-être retrouver parce que c'était mieux écrit. Ou bien s'il n'a pas barré, je regarde dans le suivant et là il y a des chances pour que ce soit bien écrit. Ce qui fait que ce qu'on donne comme consigne au transcripteur, c'est de partir d'abord de faire une recherche en rétroactive, on part de la fin du copiste, enfin de l'édition qu'on leur a donnée, du copiste. On va en arrière, et là, on a vu que dans le définitif, il y a des passages entiers qu'on ne peut pas lire. On ne force pas son talent ni sur tous ses yeux. On continue, et on fait une démarche à reculons, et on s'aperçoit que de proche en proche, des choses qui nous paraissaient illisibles ou incertaines, on arrive à les voir. Et quand on est arrivé au bout, on repart en autre sens, et hop, on a la transcription définitive. Voilà, je continue. Ça, c'était des problèmes de méthode. Maintenant, quelle est la tâche du transcripteur ? Deux choses. Transcrire de manière à ce que ça soit lisible, pas comme on a dit que ça soit la transcription qui aide, le manuscrit qui aide, et puis que ça soit lisible, et puis que, surtout que ça remontre bien, parce que ça donne à voir la progression de Flaubert dans son écriture. Alors, regardez, en fait, le manuscrit commence ici, finalement dans son entête il a quand même raconté plein de choses, j'ai pris juste les six premières lignes pour qu'on fasse petit. Vous remarquez ce chiffre-là, 63, c'est ses pages personnelles, mais c'est comme au cinéma, vous voyez. Il commence, comme il fait plusieurs fois la même chose, il était arrivé à la page 63 de ça, il fait 63, puis il dit non, ça va pas, alors on a 63, deuxième, 63, troisième. Donc on peut avoir plein de brouillons, on sait qu'ils s'appellent 63, et qui sont la même chose. Alors là, on sait où on en est. Qu'est-ce qu'il faut remarquer ? Ici, que c'est complètement biffé, que ça va disparaître, il faudra qu'on trouve un code. Il faut voir que lui-même, il y a le gueuloir, vous vous rappelez, il va dire et gueuler son texte pour se le mettre en bouche et voir si ça va. Donc après, il met des chiffres. On mangea jusqu'au soir, ça ne lui plaît pas. On mangea jusqu'au soir. Alors évidemment, si on appelle ça une harmonie imitative, on en a plein la bouche, ça ne lui plaît pas. Jusqu'au soir, on mangea. Et vous voyez, ce 2 et ce 1, ça veut dire l'heure définitive. On en aperçoit un qui arrive là. Il y a aussi les retouches, enfin vous voyez, il y a tout un tas de choses. Donc le travail du transcripteur, ça va être de montrer un petit peu, de donner un petit peu tout ça. Voilà comment on va c'est ça qui est en train de se promener. Tout brouillon commence par une situation, partie 1, chapitre 4, on est dans le repas de noces, et dans la folio, c'est comme ça dit, foliotage de la bibliothèque, on est dans le volume 1, folio 108. Mais pour Flaubert et dans sa progression des claques de machin, page 63. Et voilà. Quand on regarde les parties noires, voilà, on travaille, vous avez bien compris, aussi pour les chercheurs d'après. Les chercheurs pour nous, commençant en classe de seconde, et finissant bien sûr parmi les plus grands chercheurs que nous honorons ici. Et donc, ils n'ont pas toujours ils n'auront pas toujours des imprimantes couleurs. Donc on a à peu près tout codé en double. À la fois pour que ça soit agréable à l'écran, c'est-à-dire qu'on voit bien la différence entre les ajouts interlinéaires. Donc, on a mis en italique et en bleu tout ce qui était ajouts, soit marginaux dans les cours, soit interlinéaires, tout ça. Et on a écrit en noir et vraiment droit les fameuses lignes, vous savez, tous les centimètres que je vous ai montré tout à l'heure. Quand un passage est complètement supprimé, vous savez, alors là, ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin, vous voyez, tout en haut, là, tout ça, il faut le montrer comme supprimé. On l'a mis en doubles accolades. On met bien le 2 et le 1, il peut y avoir d'autres choses. Vous voyez qu'on remarque aussi quand on était fatigué, d'être, on allait faire, et puis il change ce qui allait faire, donc allait devient allait, on marque bien tout. Tout ça pour que, effectivement, les chercheurs après puissent voir un peu la jeunesse du texte. Mais on ne va pas trop loin, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas lire. Et il faut que les chercheurs qui viendront derrière, les transcripteurs qui viendront derrière, sachent où regarder. Quand on ne sait pas, illisible, on est illisible. On marque une chose, là, il a barré politesse, c'est pas grave, il l'a remis là. On a donc toujours des espérances de trouver le même mot, ou un synonyme, ou une expression, vous voyez, qui convient. Donc, pour des gens qui connaissent bien la langue française, et qui connaissent bien, vous voyez, tout l'éventail qu'on peut avoir autour de ça, c'est plus facile, ça donne des hypothèses de lecture. Pour des étrangers, même des étrangers qui connaissent bien le français, ils n'ont souvent que, vous savez, ils ont moins d'éventail, ils ont parfois du mal. Voilà donc où on arrive, jusqu'au soir on mangea, quand on était trop fatigué d'être assis, on allait se promener. Voilà, voilà un petit peu les transcriptions. Donc vous savez maintenant ce qu'ils ont à faire, mais comment les aider? Toujours, je pense à monsieur, celui de Poindigné, celui des îles sous le vent, celui tout simplement du bled le plus reculé en Auvergne. Ils n'habitent pas la Seine-Maritime. Or, il y a énormément de noms propres qui sont des noms de communes. Ben, même nous, on ne les connaît pas tous, surtout, c'est drôle. Et des fois, on n'arrive pas à les lire. Pas grave. Donc maintenant, je suis en train de vous montrer l'aide de l'Internet, comment Internet, partout dans le monde, peut quand même nous aider à comprendre les choses. Alors, petit exemple, Charles rentre tous les soirs, il raconte à sa femme ce qu'il a fait, ce qui la passionne complètement. Donc il avait été obligé d'aller jusqu'à un bled. Hein. Les colzas étaient en retard, et les récoltes de colza n'étaient pas encore faites. On disait qu'il y aurait beaucoup de cette année, mais on avait découvert un remède. Alors, très vite, pour la toponymie, vous allez sur le nom des communes de Seine-Maritime, et puis vous voyez bien, on devinait que c'était Valdemille. Hein. Mais par contre, dans notre région, il y a Osmonville, Aumonville, etc. Donc, on peut vérifier ça. Ce qui est beaucoup plus intéressant, les transcripteurs, on est troublés par le contexte. On vous parle des colzas, puis on vous dit, ah, les colzas sont en retard, mais cette année, il y aura beaucoup de... Ça commence par MA, ça finit par S. Les transcripteurs, comme un seul homme, de maïs. Bon, vous êtes normand depuis quelques siècles, du maïs au 19e siècle, en Normandie, non mais ça va pas, c'est donc pas maïs. Alors, autre chose, quand on ne sait pas, là pour le moment on continue à s'amuser, dictionnaire des mots croisés, dictionnaire des mots croisés. Vous avez A, vous avez N, vous avez A, vous avez S, donc vous demandez M, A, tout ça c'est en ligne, hein, pour l'interrogation S, et on vous donne ici toutes les choses possibles. Mac, vous dites, oh, ça ne doit pas être ça. Bon, alors il y a les noms, Mao, ça. Quelle chance. Il vous reste donc quelques petits mots qui sont où vous vous dites, c'est peut-être ça. Que faire? Eh bien, vous allez dans cette splendeur absolue, alors là, honneur à eux, toujours relatif, ce qu'on en parlait, le dictionnaire, le TLF, le trésor de la langue française, en ligne, informatisé. Et là, tout le monde peut l'avoir. Mais nous tous, on peut dire plein de choses qu'on ne sait pas. Enfin, voilà. Comment s'en sert-on? De plusieurs manières. Ici, vous pouvez taper des mots. Alors, il y a plusieurs sortes d'irritations qu'on rencontre dans Baudelaire. De temps en temps, vous lisez le mot, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Par exemple, Emma, son rêve, le vôtre aussi certainement, elle voulait une pente de cheminée parce que c'était la mode. Une pente de cheminée à la mode. Tiens, ça c'est étrange. Vous tapez pente de cheminée, en fait, on s'aperçoit que c'est, vous savez, les broderies là, qu'on met devant les cheminées. Et comme dans les hôtels d'église, vous voyez, qui descendent, qui sont brodés, voilà. Alors, on trouve, il y a des mots donc, qu'on connaît très bien, mais dont on ne voit pas le sens. Ou des mots si jolis. Elle s'épaillait le cœur. S'épaillait le cœur, moi aussi je m'épaillais le cœur. Comment on fait? Alors, on tape épailler le cœur, et on s'aperçoit, vous voyez, épailler, c'est enlever les petits trucs, séparer le bon grain de l'ivraie, quand on se nettoie bien le cœur, c'est dans le début avec Léon. Ça, c'est quand on connaît les mots. Quand on ne les connaît pas, eh bien, vous voyez, j'ai tapé « ment », etc. Ou bien, quand Homais est insupportable, parce qu'il fait exprès de donner des mots totalement illisibles, en espérant ne pas être compris, il a un savoir encyclopédique, ce qui fait que quand on est en face de « osmazone » ou un « je ne sais pas trop quoi », on a du mal. Surtout que Flaubert, lui, il n'a pas d'orthographe, il écrit mal, vous voyez. Bon. Alors, je vous passe, et on va arriver à deux grands plaisirs. Ben, les ments, vous saviez tous, je sais bien, vous le saviez, vous n'avez pas voulu me dire que c'était des larves de hanneton. Larves de hanneton. Et c'est très méchant, les larves de hanneton, ça vous broute les racines des arbres. Donc vous comprenez la phrase, mais on croyait avoir trouvé un remède. Et ce qu'il y a de bien ici dans le TLF, c'est qu'il vous donne quand même des citations. et vous avez Flaubert. 25 ans après, Flaubert, qui n'avait pas trouvé le remède, dit-on, d'Osmonville, etc., dans Bouvard et Pécuchet, ils ont trouvé le remède dans un contexte plaisant. Il imagina pour détruire... Donc vous voyez, il s'agit d'aller brouter les vers blancs qui sont en train de vous détruire, voilà. Il imagina pour détruire les mans d'enfermer les poules dans une cage à roulettes que les deux hommes poussaient par derrière la charrue, ce qui ne manqua pas de leur briser les pattes. Donc, d'abord on s'amuse, on voit que Flaubert... On s'ennuie pas hein, dans la transcription de Flaubert, je vous assure. Bon. Mais en plus, on est sûr que c'était les mans, parce qu'on sait que Flaubert avait un problème avec les mans, et puis qu'il cherchait des remèdes, et qu'il les avait presque
trouvés. Ça prouve qu'il y a de la mémoire, c'est des mans qu'il a supprimés dans la Bovary, et il les a repris dans Bovary, et puis c'est...
Osmazom, c'est une autre histoire, c'est que dans la marge, on ne comprenait rien. Vous voyez, le cher Homais vient tous les soirs, sa colonne grecque à la main, le problème, bon, il pose son terre-bouche sur la table, et il raconte aux gens, oh, vous ne devriez pas manger ça, oh, ça, maintenant ça s'appellerait de la diététique. Et tout le monde fait ça, mais du temps de Flaubert, c'était ridicule. Maintenant, Homais, ce plan de diététique est remonté. Et donc, on est dans la marge, qui avait une histoire, on comprend peut-être rôti, après il y a P, E, X, T, et puis Osmazon mal écrit, etc., etc. Et finalement, je fais vite, Bria Savarin vous apprend ce que c'est l'osmazome. Vous le saviez aussi, pardonnez-moi de vous dire des choses. L'osmazome se retire surtout... C'est par lui que se forme le rissolet des rôtis. Voilà, et donc on sait maintenant que c'est rôti. J'arrête. Je passe à autre chose. Pour le moment, là, on avait les dictionnaires, l'aide des dictionnaires. Mais on a notre ami Google. Alors notre ami Google, ça c'est assez sympathique. Justement, cette dame qui avait transcrit le Comice Agricole, Madame Golden, voilà, bah, il y a des choses qu'elle n'a pas pu lire, parce qu'elle n'avait pas aussi belles images que nous. Hein. Nous, on dit merci Madame Golden, on dit si seulement vous avez lu ce qu'on avait. À la fin du discours de Homais, alors, les Comices Agricoles, 360 brouillons. Bon, vers la fin, là, Homais fait son discours pour la presse de Rouen. Et alors, on voit un truc assez. On voit battre l'eau. On pense que c'est l'eau, et puis là-dedans, au-dessus, il y a un truc, un gribouillé, alors je sais pas, il avait dû plonger, il n'y avait plus d'encre, alors c'est complètement pâle, en plus il colle tous les mots, il est 2h du matin, enfin voilà, on ne comprend rien. On réfléchit, battre l'eau, on va chez Google, on se dit, regardez, on est quand même dans un monde très dur, on fouette la crème, on bat les sentiers, on bat la terre, s'il y a des sentiers battus, s'il y a de la terre battue, pourquoi on ne battrait pas l'eau? Donc vous tentez, battre l'eau. Et vous arrivez à plein de trucs. Alors, il faut passer les premières choses. Vous arrivez, comment les baleines battent l'eau avec leur queue. C'est très difficile. On vous explique aussi comment, quand vous allez faire du tourisme au Vietnam, il faut battre l'eau après avoir mis du chlore. Mais surtout...
Si vous aviez lu Hubert de Falaise...
Hubert...
C'est le conseil à donner à nos transcripteurs, alors.
Voilà. Donc, nous arrivons à l'histoire des droits seigneuriaux au Moyen-Âge, où on apprend que les serfs étaient obligés de...
Très subtil.
Bon, mais tant pis, je vous raconterai la suite dans la... voilà. Pouvait donc battre... Bon, voilà. Il fallait battre l'eau pour faire taire les grenouilles pour que les seigneurs puissent dormir. Et comme, à ce moment-là, on continue, et on trouve beaucoup plus profond encore, vous avez battre l'eau, dans les plans et transcriptions de Madame Bovary, qui, grâce à Google, sont déjà en ligne, puisque chaque semaine, tous les mardis, on met le travail de la semaine. Et tout au fond, on s'aperçoit que M. Yvon Leclerc, on vit une vie antérieure, mais comme personne ne peut connaître, Yvon Leclerc connaissait bien ce qu'il avait fait, mais il ne savait pas ce que moi j'avais fait. Vous voyez, 4600, voilà, ça ne se voit. Et on trouve que battre l'eau, donc à nouveau, on est absolument sûr de soi. Je vais vite. Le problème des citations. Le problème des citations, c'est que tout d'un coup, vous êtes dans un brouillon, tranquille, vous avez l'air de comprendre de quoi il s'agit, et puis il vous tombe du ciel, enfin là, il y monte. Montez au ciel, fils de Saint-Louis. Vous connaissez l'histoire? Moi pas. Montez au ciel, fils de Saint-Louis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y vais, et je vois à nouveau deux choses. Je vois, dans les mots qui restent, que c'est finalement la vraie citation, c'est fils de Saint-Louis, montez au ciel, et c'est Louis XVI allant à l'échafaud, et son confesseur qui lui dit en montant, allez au ciel, fils de Saint-Louis. Et puis on apprend dans la même citation que personne n'a jamais dit ça, que le curé en question a dit qu'il n'avait jamais dit ça et que ça avait été trouvé le soir même dans un dîner. Donc, avec le plaisir de Google, vous avez en plus toute l'ironie de Flaubert qui vous vient en direct. Et vous voyez que dans Bouvard et Pécuchet, vous avez aussi ça. Donc, quand on a cette chance d'avoir constamment une confirmation par l'intérieur, avec, on peut retourner la chose. Moi, j'avais du mal parce qu'ils étaient dans un hôtel, mais comme je montrerai tout là-bas après. Deuxième citation, beaucoup plus douce. On est toujours dans l'hôtel. C'est le matin. Enfin, c'est pas le matin. Ils ont passé la journée à baffrer, à faire des choses que la morale réprouve. Et il va falloir se quitter. Et dans la marge, vous avez « Allons, ma belle, ta cavale, Isabelle !» Oh, ben là, ça, personne ne s'y attendait. Cette cavale, Isabelle. Alors, pour chercher les citations, bien sûr, vous prenez les mots les plus marquants. Vous tapez « cavale, Isabelle », on vous dit tout de suite « Musset !»« Oh, Musset !» Poésie 1933, etc. Alors là, donc on sait tout de suite. Hein. Ça s'appelle Au lever. Ça commence par Assez dormir, ma belle. Donc vous voyez, lui, quand la citation, c'est comme toujours. Ta cavale, Isabelle, est mise sur les balcons. Et là, il y a ce texte très joli où on voit tout l'érotisme et on vous raconte qu'il faut maintenant se rhabiller. Donc d'abord sous la moire, avec ce bras d'ivoire, enfermons ce beau sein dans la forme divine pour que l'œil la devine, reste au pli du coussin. Tout ça va disparaître. Ce qui reste dans la page, c'est un érotisme tout à fait raffiné des débuts d'Emma avec Léon et de Léon regardant la courbe de la poitrine d'Emma, absolument. C'est tout à fait ravissant. Ça disparaît, ce qui reste donc, mais c'est tout le temps le brouillon, où on a toutes ces citations, toutes ces références, ce qui disparaissent et ce qui en reste, c'est l'esprit. J'ai le droit de vous montrer ces deux jolies images. Et oui, bien sûr, vous n'allez pas partir sans ça. On a aussi la Vénus de Médicis. Bon, alors je vais vite. Vénus de Médicis. Tout ça, on ne sait pas si c'est venu, si c'est Vénus. Heureusement, on a Apollon. Et c'est Emma, quand elle est enfin sortie de son lit, qu'on lui a rhabillé et tout, il y a quand même les bandeaux qui laissent à désirer. Elle va chez le coiffeur. Les coiffeurs, c'est magnifique, dans les brouillons. Donc, elle est en train de regarder par la vitrine. Il y a deux petites statuettes de coiffeurs. La Vénus de Médicis. L'Apollon du Belvédère. Google nous donne aussi tout. Il nous dit, ben voilà, ça c'est une réplique de Cléomène qui lui-même, un siècle après Praxitèle, a fait des Vénus dites pudiques, etc. Voilà. Je ne sais pas. Alors c'était bien sûr chez les coiffeurs pour attirer les gens, bien sûr uniquement par la coiffure. Les gens s'arrêtaient bien sûr pour voir ça. Et donc vous avez. On vous dit plein de choses. Que ça, c'était commandé par Louvois. C'était donc à Versailles. Donc on pouvait avoir des réductions chez les coiffeurs. Bon, allez, hop. Moteur de recherche Google, hop, ça marche. Vous pouvez déjà trouver déjà tout là-dedans. Les génériques de fin, presque, parce qu'après je vous montre mal pour bien. Voilà. Monsieur, Niti Wadi, qui a transcrit ? Des tas de gens assez connus, comme Monsieur Guy Rosa. Vous allez retrouver quelques spécialistes de Flaubert et tout. Vous avez cette petite Ninette, là, elle est charmante, elle est en première, elle est au lycée de Lisbonne, elle a décidé qu'elle ferait, elle, tout, toute seule. Et elle s'est bien débrouillée. Elle a été voir son prof de français toute contente en disant « Vous savez ce que je fais ? Je fais des transcriptions de la Bovary. » Le prof a dit « Vous n'oubliez pas, ils vont tout vous piquer. C'est, ne leur donnez rien parce qu'on sait comment ça se passe. Ils vous prennent tout votre travail et tout. » Alors qu'on met les transcriptions avec les signatures, vous avez vu. Opération lycée, je ne vous en parle pas, c'est interdit. C'est au programme de seconde, le travail de l'écrivain. Donc on a eu l'idée de dire aux tous les secondes, si vous voulez, on vous envoie des brouillons sous la houlette du prof, et ils font ça en classe. Et il y a des moutards qui, dans les îles sous le vent, etc., on traduit ça, troisième partie, et je vous montre, et deux minutes, voici comment ça se présente sur notre site provisoire en ce moment. On commence au début, séquence 1. Vous avez la suite des brouillons. Vous pouvez les prendre en enfilade. Celui que vous avez vu tout à l'heure, et vous voyez, effectivement, toujours la citation, quand c'est des élèves, c'est les élèves. Les gens sont là et on reconnaît, si vous saviez le boulot, vous avez cru comprendre, et ben ça y est, voilà, voilà.
C'est pas pour nous.
Ah, ben alors, c'est pas pour nous. Je peux encore juste. Je reprends. Pardon, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On leur donne un petit goûter. Hein.
Non, c'est des vaches qui passent.
Non, pardon. J'ai été très, très, très troublée. Je repars donc sur ma séquence.
Il nous reste 40 minutes pour la discussion.
Bon, mais alors, je finis. Ah, ben, comme ça, vous verrez quand même. F11, si quelqu'un a vu F11 quelque part. Voilà. Donc, on peut suivre, vous voyez. On va d'un brouillon à l'autre. On les a classés par ordre génétique en se servant de ce qu'ils ont. Vous pouvez tout déployer. Quand vous avez fini, vous passez au définitif. Quand vous avez tout déployé, vous passez au copiste. Vous arrivez au texte final pour que les gens puissent voir, mais vraiment, on est arrivé là. C'est petit, hein, c'est quoi ? Voilà, mais c'est le texte qu'on connaît, c'est celui qui est édité. Et puis, si vous n'êtes pas lassé, vous passez à la séquence 2. Comme on veut que ça soit convivial. On a dit aux gens, mais présentez-vous, qu'on sache qui vous êtes. Parce qu'ils viennent de milieux, bon, vous me demanderez peut-être tout à l'heure, donc j'en dis pas plus. Et puis, on demande une chose, mais là, je vous raconterai plus tard. Et on passe à la séquence 2. Et vous pouvez faire faire toute Madame Bovary, comme ça, où vous passez d'une chose à l'autre, et les gens disent qui ils sont, ce qu'ils veulent, d'où ils viennent, quoi ils vivent, comment vont-ils mourir. Voilà. Je suis ça, hein, j'étais dans les temps, cher monsieur. Alors, donc, je laisse ouvert si vous voulez qu'on revienne sur telle ou telle image, et puis, nous vous donnerons toutes les feuilles d'inscription. Et...
Votre projet est absolument extraordinaire et votre exposé est tellement clair et bien structuré que on en reste égoïste. Donc j'aurais juste une petite question à propos du concret de votre travail et du travail de vos collaborateurs. Si j'ai bien compris, donc, vous partez d'une copie scanner des manuscrits de Flaubert, de très bonne qualité, vous avez dit, et vous avez mis tout ça sur CD-ROM pour pouvoir le distribuer.
On l'envoie par la poste.
D'autre part, j'ai découvert ça et ça me paraît formidable, vous travaillez beaucoup de manière informatique.
Totalement.
Après, au niveau de la communication. Ma question donc c'est, est-ce que vous avez réussi à éliminer complètement le papier? Ou alors, est-ce que, par exemple, vos collaborateurs reçoivent le CD-ROM et font une copie papier et commencent par faire une transcription sur une feuille de papier à côté avant de la remettre à l'ordinateur? Ou est-ce que vous avez complètement éliminé le papier?
Alors, tu permets?
Non, mais c'est pas plus grave.
Écoutez, alors ça dépend des gens et ça dépend des brouillons. On perd énormément de temps à commencer par écrire sur le papier. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en arrière-plan. On met en arrière-plan l'image. On a donc deux écrans. On a le Word. On leur envoie une maquette hein, pour leur dire écoutez, voilà comment ça doit. Vous écrivez là-dedans. Et le mieux, c'est de passer d'un écran à l'autre. On lit, on tape. On lit, on tape. Le mieux encore, c'est d'être deux. C'est que dans ces cas-là, on fait un tirage. On fait un tirage du manuscrit. Chacun se retire dans son coin. Pour lire séparément. Il ne faut jamais que vous voyez pour pas donner l'erreur qu'on a déjà. Et puis on se retrouve, chacun lit ce qu'il a cru lire. Et à ce moment-là, il y en a un qui tape, l'autre qui lit. C'est ce qui va le plus vite. Parfois, les brouillons sont tellement, mais tellement, tellement embrouillés. Il n'y a pas seulement deux, voilà, puis ça arrive après, et tout, qu'on ne peut pas s'en sortir si soi-même, même quand on connaît bien, on écrit quand même pas pour savoir mais dans quelle ligne c'est. Donc, on peut travailler entièrement sans papier. Mais parfois. Et puis chacun... Il y en a qui ne savent même pas travailler Word. Vous savez, les transcripteurs, ils sont passionnés. Ils écrivent, ils disent « Je suis passionné par Madame Bovary ». Les hommes, surtout, ils sont passionnés par Flaubert, c'est leur ami.
Henri Béat. Oui, moi, je suis très intéressé par la succession des deux exposés, quel que soit l'objet. Et la différence qu'il y a entre les deux projets, il y a une opposition fondamentale, c'est que dans un cas, nous avons un travail mené par un seul individu, assisté par ordinateur, et dans l'autre cas, on a un travail coopératif. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est la confrontation des deux, c'est ce que vous gagnez et ce que vous perdez, ce que vous gagnez, vous l'avez dit. Dans votre exposé, c'est assez clair, à être à cette recherche coopérative sur programme, comme on disait au CNRS autrefois, c'est clair, c'est évident, mais vous y perdez beaucoup, parce que vous avez parlé aussi de ces procédures, enfin vous avez évoqué, mais sans y insister, ces procédures qui font que vous n'inscrivez, vous mettez sur le réseau que ce que vous avez validé. Donc j'ai mal compris.
Écoutez, voilà.
Alors moi, autant j'avais tendance à dire à M. Thiriou, mais pourquoi est-ce que vous avez travaillé tout seul et pas avec d'autres, autant j'ai tendance à vous poser la question, pourquoi travaillez-vous comme ça, comme vous l'avez expliqué? Ça a des retombées tout à fait positives, c'est évident, mais ça a aussi quelques difficultés que vous avez évoquées en parlant du travail interminable.
Oui, M. Thiriou avait calculé qu'il faudrait, il arriverait à 160 ans.
À taper bon. À la machine.
Voilà. Nous c'était 950 ans. Enfin, ah oui. Bon, si une personne seule s'en était chargée. Non, nous ne validons pas avant de mettre en ligne parce que nous n'aurions pas le temps. C'est-à-dire que nous n'avons pas le temps de confronter le travail. Nous mettons en ligne après conversion HTML, c'est-à-dire qu'on reçoit les documents Word et Daniel les met en ligne. Mais nous précisons bien, lorsque vous tombez sur la page où vous pouvez accéder à la totalité des séquences mises en ligne, que ces séquences ne sont pas validées. Elles ne sont pas validées. C'est une sorte de pré-print, si vous voulez, comme on disait hier. De pré... Bon. Alors, se pose le problème...
On a changé. Je continue, mais je raconterai.
Se pose le problème, effectivement, de la validation. Comment valider 4500 pages? Il est évident qu'une seule personne ne peut pas valider, ou même peut-être 10 personnes ne peuvent pas valider. Donc là, on a commencé à réfléchir à un certain nombre de procédures, mais Daniel...
Alors, écoutez, simplement, tout change. Déjà, ça fait un an. On a un an. Vous avez vu, c'est extraordinaire. Ce qui a déjà été fait en un an, on est à peu près, on peut presque imaginer qu'il y a 40% du travail déjà en ligne, la validation à faire, etc., etc. Mais ça va très vite. Et au début, comme on était un peu submergé, quand ils nous envoyaient une séquence, on la passait en HTML, on refaisait pour faire des tableaux. Enfin bon, on la mettait en ligne. Mais maintenant, c'est très différent, parce que maintenant, je demande aux gens, avant, pour être sûr, parce qu'on a beaucoup de demandes, et puis finalement, après, ils croient que hop, ça va venir comme ça, je leur demande vraiment d'essayer, et à ce moment-là, s'instaure entre eux et moi, mais vraiment, sur les 4-5 premiers folios, ils m'en envoient un, que je leur envoie surligné avec toutes les corrections et tout, et puis finalement, il y en a qui, c'est devenu une habitude de vie, ils m'en envoient, je reçois un tous les deux jours, et à ce moment-là, je peux corriger, et je corrige moi déjà, mais je dirais pas que c'est une validation, mais nous, on a maintenant un regard, et on corrige beaucoup de choses, voilà.
J'aurais tendance aussi à faire une question, c'est la datation, on voit bien entre le projet, les choix de M. Thiriou et les vôtres, il y a aussi l'évolution de la numérisation, enfin d'Internet, du numérique en général. On voit bien ce qui a été possible à un moment ne l'était pas pour les raisons simples. Quand on était avec Telnet ou je ne sais plus quel logiciel, on ne pensait pas à la mise en commun, à la coopération, même s'il y avait déjà le réseau.
Mais donc, les problèmes sont devant nous.
Je suggérerais qu'on fasse une chronologie, qu'on établisse une chronologie des travaux littéraires sur ordinateur, parce que ces dates sont, on le voit bien avec, tout à l'heure Michel évoquait l'édition prototype de l'autre hameau. Il y a quand même aussi quelque chose qui demeure, c'est qu'on est toujours dans ce que j'appellerais l'expérimental, et on ne voit pas trop. On fait toujours des prototypes en se disant, tiens, les autres vont continuer et ils vont s'en emparer, vont s'approprier. Et malheureusement, moi je dirais, il y a peut-être les brumes de ce matin qui nous rendent pessimistes. J'ai rarement vu la transposition.
Tu veux parler, non?
Là, je ne vois pas où est le prototype, là.
Il y a l'exemple même de travail coopératif sur une lecture de manuscrits qui porte sur Flaubert en l'occurrence, on peut se dire, tiens, ça peut être la même chose sur Dostoïevski.
Ouais. Ah oui, mais ça peut être ça sur tout Flaubert, alors là, on a déjà...
Non, mais là, ça peut marcher. Se développer, enfin, je ne sais pas. Peut-être vous avez d'autres contacts.
Non, mais nous, on commence les problèmes techniques, là. Les problèmes techniques vont arriver, puisque vous voyez bien, là, on a été obligé de faire du Word. Parce que sinon, on n'avait rien. Word sur deux colonnes, la marge et tout. Word en tableau pour bien verrouiller ce qui allait être en marge, bien en face, voilà. Ça a déjà été pour les transcripteurs, c'est déjà très dur, ça. Ils arrivent, j'attrape ça, je le colle sur HTML, mais pour que le tableau reste, je suis obligé de passer par front de page. Je ne peux pas aller dans Dreamweaver direct, vous voyez, ou ce genre de choses. Quand on regarde la page de code, on peut se tirer des balles dans la tête. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour le vrai moteur de recherche, avec vraiment, et ça, ça sera le projet de la BMR, la bibliothèque de Rouen, qui va avoir, enfin, on devrait arriver à un moteur de recherche, non seulement avec de l'HTML propre, comme disait notre ami hier, ils veulent des codes TEI, ils veulent ceci, ils veulent quelque chose qui arriverait du coup à un stade de prototype. C'est-à-dire que nous, on va essayer de chercher des convertisseurs, essayer de... Voilà. Donc tous les problèmes sont devant nous, on en est conscient. Mais par contre, si on arrive à les résoudre même partiellement, eh bien, pourquoi ça ne servirait pas pour tout Flaubert et pour tout le reste?
Pour revenir à votre question
de développement, on ne les voit pas venir, les suites. Enfin, mon expérience à moi, c'est plutôt pessimiste.
Ouais. Écoutez, ça fait un an qu'on a commencé, vous vous rendez compte?
C'est
Camille
Proustien, par exemple.
Oui, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt l'exposé de nos deux collègues, si je connaissais déjà votre site pour l'avoir visité. Mais je crois que ça marche relativement bien pour Flaubert parce qu'il travaillait par page ou par épisode consécutif. Dans le cas de Proust, il travaille par cahier. Dans un cahier, on trouve tout et n'importe quoi, et son contraire. Ensuite, il peut aller chercher dans un autre cahier la suite, ensuite dans un autre cahier, etc.
Ça, ça serait le... Oui, mais là aussi, c'est dans plusieurs volumes. Il faudra que vous ayez l'équivalent de Marie Durel. Il en faudra 10 pour Proust.
C'est vrai que la différence entre le manuscrit et l'imprimé, c'est que chaque dossier manuscrit a sa spécificité. Pour Salammbô, par exemple, si un jour on fait le travail pour Salammbô, on aura un autre, et pour n'importe quel autre roman de Flaubert, après Madame Bovary, on aura l'abondance des notes de la documentation. Alors que quand Flaubert écrit Madame Bovary, il connaît le terrain. Il ne prend pas de notes extérieures. Pour tous les autres ouvrages, il y a une abondance des notes. Alors on voit, il y a un admirable travail qui a été fait par Tony Williams, que vous connaissez peut-être. Hein. Il a fait un site sur un chapitre de l'éducation sentimentale, le premier chapitre de la troisième partie, celui qui intègre le plus de matière historique sur 48. Lui, il a relié ce qu'il appelle avec des points chauds. Il a des points chauds dans le texte, et on clique sur le brouillon, et on voit apparaître la source documentaire. Pour Flaubert, on n'a pas de source documentaire. Enfin, une ou deux pour Madame Bovary, mais c'est tout à fait marginal. Donc chaque dossier manuscrit supposera une pensée autre de la navigation.
Est-ce que tu permets que je parle des observations?
Oui, bien sûr.
Vous avez fait remarquer sur la petite...
Valide.
Comment?
Il a validé.
J'ai validé.
Ah non, mais nous travaillons... C'est pour tout vous dire.
C'est quasiment fusionné.
Tous les mardis, on déjeune ensemble et on se valide l'un l'autre avec... plutôt au dessert. Bon... Le problème des moteurs de recherche, imaginons qu'on ait le moteur de recherche qui a déjà, paraît-il, été 100 fois édité, on ne va pas refaire la roue, ni le fil à couper le beurre, car nous sommes en Normandie. Donc, on se dit, mais le moteur de recherche va trouver en plein texte plein de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas trouver en plein texte, parce qu'on ne sait pas comment les nommer. En particulier, enfin, ce qu'on appelle donc les notes de régie, il y en a plein dans les brouillons. Dans la marche où d'un coup il dit « Ah, passez au style indirect !» Il déteste, il voit que chaque fois qu'il fait des dialogues, ça, voilà. Travailler la scène en quatuor, il y a des choses géniales comme ça. Personne n'aurait l'idée, pour chercher comment écrit Flaubert, de taper quatuor. Ce qui fait qu'on a demandé aux transcripteurs, quand ils avaient fini ou en même temps, parce que c'est quand on est surpris qu'on note, de noter, on leur a donné des rubriques. Première chose, ce qui se passe à peu près dans votre histoire, mais ça c'est un petit résumé, mais surtout, par exemple, eh bien, y a-t-il des fragments de scénario? Très souvent, vous avez vu comment ils travaillent. Au début, c'est bien rédigé, et puis tout d'un coup vers la fin, il écrit rapidement les choses qui devront intervenir dans la suite. Donc, fragments de scénario. Voilà, je ne parle même pas des plans scénario, du début. Ou bien le fameux indirect, une note de régie. Et puis, imaginons tous ces chercheurs qui vont travailler, parce qu'on disait, mais qui est spécialisé Madame Bovary? Mais écoutez, certainement pas. Bien sûr, les spécialistes de Flaubert, à condition aussi qu'ils sachent tout sur les hannetons, sur les... enfin, vous voyez, il faut connaître l'agriculture, le jardinage. Je dis ça parce que j'ai transcrit des trucs, c'était hilarant. C'était une histoire de greffe d'abricotier, mais écoutez, quelqu'un qui travaille, le malheureux, dans une bibliothèque, dans une grande ville, il n'est pas obligé de savoir comment on greffe les abricotiers. Et personne. La couture, comment sont les toilettes de Madame Bovary, il faut tout savoir, surtout. Donc personne n'est spécialiste. Voilà. Donc ce qu'on demande, c'est noter aussi tout le savoir documentaire. Écoutez, quand on voit comment l'hirondelle recrute ses passagers le matin, on réveille le soir, les gens ne sont pas réveillés. Donc, hiver descend, il va taper au volet en disant « Alors, vous venez ?» Enfin, c'est absolument extraordinaire. Vous avez plein de choses sur la vie du 19e, complètement documentaires. On imagine que les gens vont travailler là-dessus. On demande, dans le savoir documentaire, qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans ? Dans le lexique, vous voyez plein de choses. Et simplement des rubriques simples pour qu'après on puisse indexer et que quelqu'un qui voudrait travailler sur les notes de régie dans Madame Bovary, sur les scénarios, enfin vous voyez, tout ça, ou bien sur la Normandie au 19e, puisse trouver.
L'autre stade, ce serait de pouvoir, à partir du matériau des transcriptions, coder, mais ça on n'est pas capable de le faire dans notre niveau informatique, coder sémantiquement un certain nombre de passages et en particulier baliser ou coder toutes les notes de régie pour pouvoir ensuite les sortir, parce que pour l'instant nous faisons confiance aux observations des transcripteurs. Il faudrait que le moteur de recherche qu'on ait un accès aux notes de régie en série dans la totalité du manuscrit. Pour l'instant on n'en est pas là.
Monsieur Le Maire, pour revenir à votre projet, quand vous avez organisé ça, pensiez-vous que votre projet aurait autant de succès auprès de collaborateurs et que tout de suite, vous avez comme ça des dizaines de personnes viendraient pour vous proposer...
Non. On l'a lancé, donc je disais en mars, on pensait avoir une dizaine de transcripteurs assez rapidement. On est à combien là? Tu as les chiffres en tête?
Écoutez, c'est pas, il y en a 130 qui ont fini des séquences, mais dans les 130, il y en a qui en ont fait 6 ou 7.
130 séquences sur 210. On a découpé Emma en 210 morceaux.
Oh, il y en a plus finalement, parce qu'on n'avait pas fait les...
Ah oui, c'est vrai, par exemple, après on a fait...
Donc, ce qui s'est passé, ça a été le relais. On a eu vraiment beaucoup de chance. Hein. On a commencé par Littor, merci Littor.
Ouais.
On a fait Prof L, merci Prof L. Et puis, enfin bref.
Et on a eu de superbes articles dans Le Monde. Vous savez, dans le Monde des livres, il y a un encadré sur le web. Si, c'était ça annoncé. Et puis on a eu 3 pages dans le Libération. C'était quand ça, Libération?
Oui. Ça, c'était
venu au début de l'année.
Grâce à une autre vue. C'est à cause de... Finalement, ce qui nous a beaucoup lancé, c'est l'histoire du projet en seconde. Il y a eu une revue électronique qui s'appelle Le Café Pédagogique, qui avait mis ça à sa une. Libération la nuque, etc. Mais maintenant, en ce moment, j'ai complètement arrêté parce que j'arrive plus à... Là, pendant les vacances, il fallait que je relance les choses. Je me suis dit, allons-y doucement les basses, on va bien régler tout ça. Mais malgré tout, là, depuis qu'on est arrivé, j'ai reçu d'abord 5 séquences toutes finies, et puis 3 demandes.
Je crois que la différence, pour revenir à votre question, entre le projet de M. Kyriou et puis le nôtre, c'est que M. Kyriou a mis 20 ans, maintenant il a fini. Parce qu'il travaillait sur de l'imprimé. Nous, on va mettre, disons, 5 ans, mais on n'aura jamais fini. Parce qu'on travaille sur du manuscrit.
Et je posais cette question parce qu'au niveau d'organisation d'un projet, dans les discussions, on voyait que dans plusieurs cas, on lance un projet et c'est difficile de trouver des collaborateurs. En particulier, si on veut faire travailler des étudiants, il faut les payer, il faut les pousser, ne se bouscule pas aux portillons, comme apparemment dans notre projet.
Oui, mais on a la chance, encore une fois, d'avoir Mme Bovary. Alors, la région a payé des vacations d'étudiants pour ressaisir, avec contrôle, les textes qui ont déjà été transcrits. Je vous parlais tout à l'heure des comices et de l'opéra. On s'est dit, pour que les bénévoles fassent un vrai travail de découverte et pas un travail de secrétariat, on ne peut pas leur demander de ressaisir, avec nos consignes, ce qui a déjà été transcrit. Donc là, on a payé des étudiants pour ressaisir, avec contrôle évidemment. Et Jacques Golding a fait un travail remarquable en version donc papier il y a 20 ans, en transcription diplomatique, mais Mathieu McNamara, qui a transcrit l'année dernière la scène de l'opéra, a opté pour une transcription linéarisée, par exemple. Donc on ne pouvait pas, de toute façon, la reprendre telle qu'elle. Mais là, on a payé les études.
Et puis le côté bénévolat, je vous assure. Alors, moi, j'assure le courrier. Il y a un courrier phénoménal. Vous arrivez quand même, disons, en 4 mois, c'est un échange de 1000 messages. Et puis je téléphone. Parce que le courrier, c'est un peu raide, hein, comme vous savez, de temps en temps, on va vite, et puis l'autre reçoit ça, comme ça. Donc on se téléphone, on arrondit un petit peu les choses, ça crée des liens. Et puis, écoutez, je ne vous ai pas dit, mais il y avait le choix des séquences. Quand on leur a dit, choisissez la séquence, ils choisissent, hein, c'est pas nous qui imposons. Et alors, on a été assez étonnés, parce que les tout premiers, on se dit, ils vont tous jeter sur les trucs qu'on connaît bien. Pas du tout. 2 premières séquences, la mort du père de Charles, l'accouchement d'Emma. On a dit, oh. Puis alors, on a vu, on s'est dit, oh, ben, là, on a compris. Pour l'accouchement d'Emma, je sais bien maintenant, elle est née la petite fille, elle habite en Nouvelle-Zélande, ils sont déménagés.
C'est le bébé à Grèglette, comme elle dit hier,
on a quelques bébés. Voilà. Et puis alors après, ce qui se passe, c'était bien sûr. Alors, c'est très rigolo. Il y a les élèves de lycée. Alors il y a des profs un peu démagos, vous savez, un prof c'est forcément un fou quand même. Alors ils ont été sur la liste, ils ont dit qu'est-ce que vous voulez faire ? Oh, bon, les ados, ça va faire tripette. Tout de suite, ils ont dit allez, on veut, pour commencer, vers la Bézade, parce que la Bézade était déjà prise. Alors vers la Bézade.
Le nom Bézade est un, entre guillemets, c'est un nom qu'utilise Flaubert dans sa correspondance, comme vous savez, hein, donc on a repris le terme. Voilà. Il n'est pas évidemment dans Madame Bovary, mais il est dans la correspondance.
Rodolphe rend Emma impudique. Que scène d'amour à l'hôtel. Alors moi, oh ciel. Alors j'ai pris, ouais, parce que moi, vous voyez un peu un peu truc comme ça.
On n'a pas encore eu d'ennui avec l'éducation nationale.
Alors justement, j'ai écrit au type, j'ai dit écoute, écoutez, on se voyait à l'époque, peut-être au lieu de vers la Bézade, je pourrais mettre promenade en forêt. On leur envoie promenade en forêt. Rien du tout. Ils veulent la Bézade, vers la Bézade, ils ont eu vers la Bézade. Vous voyez, bon, il y a des choses.
Comme vous savez, les termes de Flaubert sont extrêmement crus dans les plans et scénarios. Ça s'estompe un peu dans les brouillons, plus rien ne transparaît, moins du vocabulaire dans les versions finales. Mais dans les brouillons, il y a encore quand même des choses.
Ah, mais justement, alors ça, c'est les choses qui gênent. Les gens un peu distingués, quand ils n'arrivent pas, ils se disent c'est pas vrai, oh, non, ça ne peut pas être ça, alors. Ils nous envoient, alors, ceux qui sont, ils mettent, ils disent, alors vous regardez, puis vous voyez bien que. C'est que donc que Elsa pine furieusement Rodolphe. Bon, il pine furieusement Rodolphe. Et puis à la fin, tu prends Léon comme un godemiché. Bon, écoutez, bon, alors c'est une godem, voilà, bon, c'est un godemiché. Et puis de toute façon, si on ne savait pas trop lire après, vous savez, elle s'acharnait furieusement sur son vie. Avec une petite faute d'orthographe et tout. Et puis alors là, le dernier, qui est un type charmant, un anglais, mais citoyen français, comme il avait gentiment dit au début, c'est la mort d'Emma. Dans deux secondes, ça y est, elle est morte. Vous imaginez la scène. C'est fini. Tout d'un coup, on entend au loin l'aveugle et on voit barrer l'histoire, soit sous l'effet d'un priapisme effréné. Alors, il me dit, écoutez, je suis très gênée pour... je suis... Veuillez excuser. Il n'a pas dit mon priapisme, parce que là, j'aurais eu du mal. Voilà. Donc, il y a constamment des choses comme ça gênantes. Les choses jolies aussi des étrangers, parce que c'est un bonheur. Vous savez, ceux qui vont reprendre, après, qui vont valider, c'est sûr qu'on rigole de temps en temps. Mais quelle poésie! Et puis, rigoler sur quoi? On va donner aux chercheurs 98%. Tu avais dit 99,8 tout à l'heure pour du travail fait. Ils vont avoir à chercher et ça va être passionnant. Mais il y a des choses très jolies. Par exemple, quand on dit Charles retroussa chemin. Écoutez, retrousser chemin, c'est galant. On s'est dit très bien au lieu de rebrousser. Tandis que dans un autre, d'ailleurs, il y a Emma qui rebrousse les lèvres. Et puis de temps en temps, il ne voit pas les choses. Alors, ce qui fait que. Au lieu d'un lopin de terre, comment voulez-vous qu'au Chili, bon, on ne dit pas comme ça, donc c'était un lapin de terre, tout le monde connaît les lapins, c'est terre. Donc, voilà. Donc, c'est les bonheurs, ça c'est les bonheurs, la poésie et la douceur des transcriptions.
Quelle belle avis.
Oui, je trouve assez un petit peu intéressant, on a l'impression finalement que le manuscrit papier se substitue peu à peu à un manuscrit électronique qui lui-même pourrait faire l'objet. Dans les années futures, d'une retranscription, c'est un petit peu une substitution. Alors, est-ce qu'il y a une méthodologie type, effectivement, qui permettrait que ce soit appliqué à des types de manuscrits, c'est-à-dire en parallèle de votre travail au quotidien, est-ce que vous établissez une méthodologie pour d'autres chercheurs qui pourraient être reprises sur vos textes, ou est-ce que c'est...
Notre méthodologie, à mon avis, n'est pas assez sophistiquée, en tout cas dans, dans l'aspect informatique de la transcription. C'est-à-dire qu'on sait bien que passer en HTML, ce sera insuffisant pour mettre un moteur de recherche efficace là-dedans. Pour la transcription diplomatique, c'est-à-dire les consignes que l'on donne, la disposition tabulaire, ça c'est tout banal, tout bête. Alors on a fait un certain nombre de choix, mais... Le travail qu'on fait n'a pas de valeur, n'est pas modélisable à mon sens. Ce qui peut être modélisable, on peut s'inspirer peut-être du fonctionnement de l'équipe, c'est-à-dire la manière dont on fonctionne du point de vue de la production, c'est-à-dire comment... Voilà, structure de réseau. Parce que ce qui nous a intéressé, ce qui nous passionne tout le temps, c'est que Internet, ce sera à la fois le lieu d'installation du produit fini, c'est aussi le mode de fonctionnement de l'équipe. Et comme Daniel le dit, c'est aussi une aide constante à la transcription quand il y a un mot qu'on ne trouve pas. Parce que vous avez bien compris, je pense, que tous les mots dont Daniel vous a parlé, cet apparent maïs qui est en fait ment ou ment, je ne sais pas comment prononcer, évidemment ça ne se trouve pas dans le texte final. Alors si on cherche, c'est parce que c'est dans le brouillon et ça va disparaître. Parce que si c'était dans le texte final, on n'aurait pas besoin de chercher. Donc on a une sorte de continent englouti. Et alors, Internet est intéressant parce qu'il y a ces trois choses, si vous voulez. Hein. Ce sera le support final, c'est le mode de fonctionnement et c'est le moyen... de chercher et de transcrire.
Il y avait un, si je peux me permettre, vous savez, je vous disais, c'est bien quand on arrive à retrouver des citations de Flaubert qui nous disent, bon, bah, on est dans le bon sens, il connaît ce mot-là et tout. Et du coup, j'ai essayé de trouver, c'est toujours dans la scène de l'hôtel, excusez-moi, j'ai l'air fasciné par ça, mais il doit s'y passer plein de choses. Et alors, vous avez champagne des... puis un mot qu'on voit pas très bien. Bon, on se dit, c'est peut-être huître, mais quand même, on n'est pas très sûr. Et je me disais, ben voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais on pourrait, ça, ça peut être une des méthodologies, chercher systématiquement... Après tout, nous, on sait bien, hein, on met caviar, saumon, champagne, brouh, c'est une petite bulle chez nous. Si on cherche dans l'œuvre complète de Flaubert, et quand même, elle est, si on prend Abu et la BNF, notre transcription de la correspondance, etc., vous tapez champagne et vous voyez qu'est-ce qui vient autour chez Flaubert, quelle est sa bulle, quelle est sa constellation autour de champagne. J'ai pas fait. Quelle est sa bulle, voilà. Mais bon, j'ai pas trouvé. Mais c'est quand même une manière de faire. Quand on, quand il y a un mot et qu'on... notamment pour les noms propres, il y a une histoire où il se bagarre Bournisien et sur Dieu, l'existence de Dieu et tout, et il y a Locke, il y a etc. Puis il y a quelqu'un qu'on connaît pas parce que justement c'est un ridicule qui a disparu. Mais ça, je pense qu'on pourrait le trouver. C'est un archevêque. Ça, on peut le trouver peut-être dans la correspondance. On verrait bien que dans ce type de conversation, ouais, les mots arrivent. Ouais. Et ça, c'est un travail de chercheur.
Michel Bernard. Oui, tout le monde a apprécié, mais je voudrais quand même, au risque de paraître négatif, faire état d'un désagrément, d'un déplaisir et d'un regret. Le désagrément, c'est celui du chercheur, parce que j'ai écrit, à quelques, sans être flaubertien par ailleurs, un article sur Madame Bovary dans Romantisme, sur une phrase qui est dans la Vaubessard, où on dit qu'Emma trouve le sucre plus blanc qu'ailleurs. Et je suis obligé de tout refaire. Parce que quand on a ça entre les mains, c'est un outil fabuleux. C'est-à-dire qu'on retrouve toute la progression de l'écriture. On n'avait pas ça jusqu'à maintenant. Donc à mon avis, tout ce qui a été écrit jusqu'à maintenant doit être revu. Alors ça, c'est un désagrément.
Ce n'est pas nous, nous ne référons pas...
C'est considérable. C'est passionnant parce que ce sucre qu'elle trouve plus blanc, donc sur lequel j'avais travaillé... On le voit progresser. En réalité, c'est le champagne d'abord qui est sucré, et puis peu à peu, alors c'est une dénommée Bernadette Cassani qui m'a cassé là tout mon travail.
Bah, ça m'étonne pas. Elle a toujours été facétieuse.
Donc ça, c'est une réévaluation à mon avis complète de beaucoup de lectures qui s'annonce.
Si ça peut vous consoler, moi j'avais travaillé sur l'idée de bonheur dans Madame Bovary, et puis j'avais trouvé, j'étais si contente, que avec le contexte, on voyait toujours une métaphore idiote dans le quartier. Et je me suis dit, voilà, mais c'est pas la peine, les métaphores idiotes, il y en a partout. Parce que c'est sa manière de faire, il a les métaphores au bout des doigts. Je peux raconter, avant les deux points que nous ne voyons pas, ce qu'il y a de très joli, parce que personne ne nous a dit, parce que monsieur n'est pas là pour nous dire, mais enfin, à quoi ça sert aux gens, la question? Eh bien, il y a d'abord un abusement fou, et alors il y a des métaphores délicieuses. Il y en a une où justement, elle est juste au moment du sucre, etc., elle est à la Vaubyessard, et puis tout d'un coup, c'est comme si tout son passé se rétrécissait, etc. Et alors, elle s'est rétrécie sur elle-même comme les cylindres d'une lorgnette. Écoutez, c'est génial, ça va disparaître. Ou alors, on a des autres qui sont impossibles, on voit bien. Oui, Charles voyait défiler devant lui ses idées comme les wagons d'une locomotive. Vous voyez où nous sommes, hein, c'est la première ligne. Rouen, lui maintenant, il va retrouver sa bien-aimée à Mantes-la-Jolie, la locomotive et les wagons, ça veut dire quelque chose. Mais Charles, ça ne peut pas aller. Donc on a déjà une image hyper moderne à l'époque qui va disparaître. Pardon, je me suis deux autres points.
Après, le déplaisir, effectivement, mais ça a été expliqué, mais c'est de ne pas avoir les manuscrits en ligne.
Ah, ça va y être.
Voilà, c'est vrai que pour le moment, c'est vrai que c'est... Et ça va être vraiment excellent parce qu'on pourra donc comparer la transcription. Et puis, je me demande si ce n'est pas une réponse à ce qui était dit tout à l'heure sur la vérification, parce qu'au fond, à ce moment-là, tout le monde pourra
faire
la
vérification. Tout le monde pourra écrire.
Et vous envoyez éventuellement des propositions. Et le regret, alors, c'est... Parce que ce que je ne savais pas, c'est ce que Daniel nous présentait tout à l'heure, c'est tout le travail d'investigation qui est fait autour de cette transcription. Et c'est dommage parce qu'on ne la retrouve pas. Par exemple, tout le travail de civilisation que tu évoquais sur tout ce qu'il a retrouvé dans Fantexte, tout ce qu'il a retrouvé dans le TLFI, c'est dommage qu'il n'y ait pas une glose à côté.
Eh bien, ça, c'est observation. Oui, il faudrait faire. Et d'autre part, c'est l'exploitation pédagogique.
C'est-à-dire l'utilisation que tu fais, toi, de Frontex, effectivement, ça n'apparaît
Est-ce
pas.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une encyclopédie, Madame Bovary, qui serait à côté, enfin, remplie par les transcripteurs, qui pourrait de temps en temps mettre tout ce qui est découvert de cette manière-là, parce que c'est.
Mais c'est les observations.
Oui, mais elles ne sont pas toujours remplies.
Il faudrait globaliser les observations pour faire effectivement.
On est en train de réfléchir sur une navigation chronologique. Alors,
parce que ça serait vraiment passionnant d'avoir toutes les illustrations aussi, enfin, cette partie-là.
Mais je pense, écoutez, c'est fou ce qu'on apprend, parce que je n'osais pas dire que moi, Vénus Médicis, je ne savais pas ce que c'était, parce que je me suis dit, ça y est, c'est ce qu'on disait hier. Et puis finalement, on découvre plein de choses. Et l'interrogation intelligente de Google, alors ça pour les profs, hein, c'est qu'on voit du coup que c'est au musée des Offices à Florence, que c'est là, on comprend pourquoi c'est arrivé en France. Puis je ne vous ai pas dit quelque chose qui est délicieux. C'est que donc elle regarde ces statuettes, et puis juste avant, il y a Léon qui raconte que tout ça c'est dans le brouillon, que donc Emma c'était la femme rêvée pour lui. Et pour rêver les femmes avant, à part les petites soubrettes là qu'il prenait comme rien, il avait dû rêver. Et où est-ce qu'ils allaient? Ils allaient sur les vitrines dans la rue, les perruquiers, parce que comme ça on voit le cou des femmes. Oh, quand même. Bon, c'est vrai, les femmes, on n'a jamais très bien compris. Ou bien elles étaient nues jusque-là et ça gênait personne, dans les grandes soirées mondaines, ou alors voir une cheville, c'était scandaleux et tout. Donc, le perruquier, on voit le cou, et puis les coiffeurs aussi, et puis les bottiers, où on voit les chevilles. Et alors, tout ce fantasme, grâce. Alors, ça nous montre, vous voyez, toute une époque. Ben, c'est pas comme maintenant, ou. Pas comme maintenant, hein, c'est pas j'enlève le haut, j'enlève le bas, c'est. Voilà.
Je crois qu'il reste à peu près la moitié des manuscrits de Victor Hugo qui ne sont pas encore
écoulés.
Est-ce que vous recommandez donc ce type d'expertise collective en travail en ligne?
Non, parce qu'il ne faut absolument pas qu'on nous pique notre public. Donc, on finit Madame Bovary. On commence Bouvard et Pécuchet. On continue sur. Et puis, mais bien sûr, quand vous voudrez après.
Non, mais je crois que la contributivité va se développer.
Bien sûr.
La mise en ligne des manuscrits va effectivement permettre à d'autres gens de vérifier, n'importe qui. Et éventuellement, l'addition de quelque chose de type wiki. Par exemple, différentes personnes pouvant mettre des commentaires, valider, affirmer, discuter, c'est quelque chose qui s'ouvre plutôt que.
Avec modérateur, hein, ce ne sera jamais un système ouvert, hein, il y aura toujours un contrôle, mais effectivement, c'est le seul projet qu'on a.
Ah, mais nous ne sommes pas propriétaires. Le manuscrit en ligne, c'est la BMR. Et ils sont en train de le faire. Mais nous, il fallait qu'on avance, parce que vous savez, c'est difficile de transmettre.
Oui, la BMR, alors la propriété est réglée, puisque la BMR est propriétaire du manuscrit. On aura en ligne des images, évidemment, gratuites. La BMR se réservant le droit de commercialiser les images haute définition. Donc, vous pourrez commander des images de Mme Bovary pour illustrer un ouvrage, par exemple, papier. Et là, il faudra payer, bien sûr. Mais les autres, évidemment, seront mises à disposition gratuitement.
Mais alors, quel budget la BMR peut faire ça? Parce que là, nous, on a le problème de la nationale qui vend chaque image très cher.
Ben, je vous ai expliqué. La BMR a été, Mme Bovary a été pris en charge par le ministère de la Culture dans le plan de numérisation qui a permis d'acheter un numériseur. La bibliothèque, la BMR, est l'une des seules bibliothèques de région à avoir son numériseur personnel. Donc c'est Madame Bovary qui a servi à acheter le numériseur, qui ensuite évidemment sert pour bien d'autres choses que Madame Bovary, qui donc est rentable. Donc ça c'est une source de revenus. Et puis nous sommes aidés par la région et par la ville de Rouen. C'est-à-dire que là il y a un investissement. Je vous parlais de la dimension locale du projet, qui est évidemment très importante pour le financement. On n'aurait pas pu faire ça à Paris. C'est sûr.
C'est juste dire que je trouvais que le travail qu'ils font, le projet, c'est quelque chose de merveilleux, parce que il y a 20 ans, c'était impossible pour quelqu'un, enfin comme moi, qui suis simplement prof en lycée, d'avoir accès à des brouillons comme cela, pouvoir les voir, pouvoir les lire, pouvoir assister à leur traduction, et qu'on est en train de réaliser quelque chose qui est merveilleux grâce à l'informatique, à l'internet, et pouvoir faire de la littérature qu'on n'aurait jamais rêvé en faire il y a quelques années.
Comment travaille ton père?
En tout cas, grâce au petit Google qu'on a mis à l'intérieur, C'est, ça aide. En ce moment, Madame Jeanne Bem, qui est en train de faire l'édition de Madame Bovary pour la Pléiade, puis elle vous avait écrit en disant « je ne comprends pas quelque chose là ». Et puis elle écrivait un article sur les nuages dans Madame Bovary. On lui a dit « ça y est, Google était là, vous pouvez y aller, vous tapez nuages ». Et donc depuis Sarrebruck où elle bosse, elle peut déjà aussi regarder puisque tout est en ligne tout de suite, tout le temps. Et les chercheurs, ça commence pour moi vraiment en seconde. Vous imaginez l'exploitation pédagogique. Vous tapez simplement dans Google « note de régie ». Tac, tout sort, et puis on voit
dans
comment,
les observations, enfin,
dans les observations, et on voit, mais alors comment il a fait, comment il a tenu compte de ses propres notes de régie, est-ce qu'il en a tenu compte, est-ce qu'il a bougé. Vous voyez, des choses comme ça. Écoutez,